Podcast.com. Essaye ça.
Express du 7 juin, dans une qualité d'air qui ressemble presque à l'Abitibi, mais on ne se plaindra pas à Montréal parce qu'on ne vit vraiment pas le même genre d'affaires que dans le nord de la province et dans l'ouest, où on n'annonce pas de pluie encore. C'est vraiment ironique et c'est triste de voir ça, qu'on annonce de la pluie dans les régions où il n'y a pas de feu puis où il y a des feux, comme en Abitibi, au Saguenay. Ben, on annonce du temps sec, c'est vraiment...
Oui, mais annonçait pas de la pluie pour la fin de la semaine ou quelque chose. Là. Il y avait du monde qui avait fondé de l'espoir là-dessus. Là. C'est vraiment...
En tout cas, j'ai pas regardé la météo du Québec là, aujourd'hui, mais je sais qu'hier, pour le reste de la semaine, on annonçait pas de pluie, malheureusement. En Abitibi, là, ça commence à urger. Les incendies sont vraiment intenses. Là. Puis ça commence à se rapprocher, surtout des villes comme Val-d'Or. Puis, on reçoit des images. Il y a Chibougamau qui a été évacué puis, d'urgence, presque à dernière minute. Puis là, les images qu'on voit notamment dans la presse, le ciel jaune, c'est dégueulasse. C'est jaune-brun. Ça n'a pas l'air sain à respirer. Fait que hier soir, c'était un choc pour eux autres parce que... Hier matin, on disait que pour l'instant, il n'y avait pas de danger immédiat, qu'il ne fallait pas s'inquiéter que l'incendie s'approche trop de la ville. Puis rendu au soir, c'est comme, OK, on pack les petits puis on s'en va.
Ouais, c'est ça.
Il a fallu que les gens fassent leur valise à 7 heures du soir, OK, puis dans demi-heure, essayez de partir. Là. Mettez du gaz dans votre char, sacrez votre camp. Puis ça, c'est 7500 résidents qui ont dû... quitter, tous par la même route en plus, évidemment, parce qu'il n'y a pas 50 autoroutes qui passent par là. Fait que ça a été, un choc pour ben du monde. Il a fallu réveiller les enfants pour leur dire, ouais. Bon, mais là...
Il est rapporté dans différents médias que la fumée qui émane du Québec s'en va évidemment vers le sud. Là. Il parlait de Yankee Stadium qui était sous le smog vraisemblablement de la boucane qui vient du Québec et tout ça. Mais il y a de quoi pas de rassurant, mais en tout cas, écoute, Frank, je pense que les médias traditionnels, ils écoutent le Crachoir Express parce que, écoute, ils parlaient du tweet de sans dessin de Maxime Bernier hier, quelques minutes après le Crachoir même.
Oui, 52 minutes après le Crachoir, ça sortait finalement dans le journal de Montréal. Oui. Ce fameux tweet où ce sympathique personnage... il fait l'effet d'un envie qui passe pas. Maxime Bernier, ce grossier personnage, cet individu qui ne mérite pas d'avoir d'attention, malheureusement, réussit à en avoir. Puis il faut en parler parce que il influence des gens, ce gros domé-là, ce gros imbécile-là. Et puis, c'est ça. Son tweet, c'est « Je gage qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changement climatique. » En tout cas, c'est vraiment un épais. C'est quelqu'un qui se sac de toute la détresse que ces incendies-là causent. Ce qui est important pour lui, c'est de continuer à rameuter les épais pour pouvoir les endoctriner puis les convaincre de voter pour lui. Pour lui, il n'aura jamais assez pour l'amener au pouvoir. J'espère qu'il ne sera jamais même député. C'est un de ses tweets, parce qu'il en a fait un autre où il relaie l'article où on parle d'un lien possible entre les trois feux à Chapais. Il dit « Rien à voir avec les changements climatiques. Ce sont des terroristes verts. » OK, là, c'est plus une théorie. Là, c'est plus « je gage que ». Il affirme que c'est des terroristes verts. Il y a quelques éléments qui semblent suspects. Ben oui, mais ce qui est suspect, c'est probablement des caves en camping qui se sont dit ouais, ben moi, je fais attention, puis c'est vraiment très, tellement bas de se servir d'une catastrophe naturelle qui a de l'impact sur un paquet de monde. Tantôt, je parlais des gens de Chibougamau qui ont dû être évacués, eux autres, là. Imagine que ça t'arrive, là. Tu sais, bon, ben là, tu pars, puis t'as une demi-heure, trois quarts d'heure, faire tes valises, puis t'amènes le minimum de choses qui rentrent dans ton char, puis ça se peut que, mec, tu reviennes, tout ce que tu possèdes, toute ta vie, ta maison sur laquelle tu travailles, t'as investi toute ta vie, elle n'existera plus, tes meubles non plus, tes objets, tes biens personnels. Fait que j'imagine que les gens prennent, je sais pas quoi, album de photos, disque dur, puis du linge pour la famille, un petit peu de bouffe. Mais tu sais, ils partent en sachant pas si quand ils vont revenir, il y aura encore une maison avec tout ça.
Fondamentalement, cet épais-là, tu sais, pense, tu sais, il y a à peu près, je veux juste aller dans l'article, là, parce qu'il y a un chiffre important, là. C'est environ 400 foyers d'incendie là, qui sévissent, là, si on veut. Je veux juste m'assurer, c'est-tu au Québec? Il y avait toutefois plus de 400 feux répartis sur l'ensemble du territoire canadien au moment d'écrire ces lignes, dont 158 au Québec. Fait que lui, là, ce que ce tata-là dit, sa prétention, c'est de dire que parce qu'il a vu un article qui mentionnait qu'il y aurait un lien criminel possible pour trois de ces 158 feux-là à Chappais, que la SQ a confirmé qu'il y avait des pistes évaluait une possible piste criminelle pour trois feux survenus autour de Chappais sur 158. Bien, lui, il en déduit que les 158, c'est des terroristes verts qui font ça. Hostie de sans dessin.
Ben, pire que ça, je veux dire, il déduit que, même si c'était criminel, ces incendies-là, pourquoi ça serait des écologistes puis des verts?
Oui, puis pourquoi ça en causerait 158, Frank, à des endroits différents?
Ben non, c'est ça. Non, mais ça n'a pas d'allure. Mais même de présumer que des incendies criminels auraient été causés par des terroristes verts, c'est parce qu'on les appelle les tree huggers. C'est pas pour rien. Ils aiment les arbres. Ben ils vont pas les brûler volontairement parce que, tu sais, parce qu'en pensant, ça ferait pas avancer pendant tout le climat, le sentiment d'urgence climatique, là. Ça n'apporterait rien à des vers d'aller brûler des forêts. Là. Il y aurait d'autres façons de faire ça. Je pense qu'il y aurait peut-être plus brûlé une cimenterie qu'on lisse. T'sais. S'il y avait des terroristes verts, je pense qu'ils iraient brûler la cimenterie ou bien ils iraient faire des dommages à la fonderie Horn ou bien ils iraient s'attaquer aux pollueurs, pas à la forêt qui purifie l'air. Ça ne tient pas debout. Fait que, tu sais, qu'étant ça au 158, c'est encore plus épais. Là. Ça démontre à quel point sa débilité, en tout cas, ou sa malhonnêteté, moi je continue de garder la possibilité, de considérer la possibilité qu'il sait très bien que c'est pas vrai ce qu'il dit, puis qu'il veut juste continuer à laver ses cerveaux, mais je commence à penser de ton côté qu'il est assez idiot pour
croire tout ça. Il est juste sans dessin. Tu sais,
quand t'es endoctriné dans un système de pensée qui est le sien, ben ça se peut que tu raisonnes de travers, puis que quand t'es un complotiste, toutes les explications de tout ce qui arrive, c'est toujours des complots. Fait que lui, c'en est un complotiste. Fait qu'il raisonne comme ça. Dès qu'il arrive quelque chose, il cherche le complot. Puis s'il ne trouve pas, il l'invente.
Je salue ta confiance en la vertu intellectuelle humaine. Mais moi, je pense que tu es complètement dans le champ. Ce cave-là n'a pas le niveau cérébral requis pour faire en sorte qu'il s'agisse d'une stratégie quelconque. Je ne crois pas à ça. Je pense que ce gars-là est juste un hostie de sans-dessin. Puis si tu t'avais l'opportunité, la chance, et chose pour laquelle je serais prêt à débourser, de t'asseoir avec ce gars-là, puis de dire, « Monsieur Bernier, réalisez-vous que votre théorie sur le concept de « ce sont des environnementalistes » qui allume les feux de forêt, ça se tient pas debout parce qu'il adore les forêts, t'aurais aucun résultat, t'aurais un flatline cérébral devant toi. Mais si tu le challengeais sur le fait, es-tu en train de me dire, le cave, que toi, parce que t'as vu un article sur le fait qu'il y avait peut-être trois incendies sur 158, t'en déduis que les 158 sont d'origine criminelle, t'aurais encore un flatline?
Ben oui, ben
mais
non.
Mais je pense pas qui résonne à ce level-là. That's it. Lui, là, c'est... J'ai vu ça sur YouTube. Contenant versus contenu. J'ai vu ça sur YouTube. Il y a du monde qui dit la vérité. Puis c'est ça que ça a allumé la flamme en moi que c'était peut-être ce qui se passait. Moi, c'est ça que je pense. Puis on va toujours... Tu sais, je comprends là, qu'on se pseudo-répète un peu, mais je pense qu'à cause de nos natures respectives, on va toujours être un peu là. Là tu sais. Moi, je te dis, ouais. Ce
mais,
gars-là...
Mais pas après d'affirmer... Que
non, je le sais bien.
Je dis qu'il y a peut-être... Moi, j'ai deux options. Soit c'est un politicien extrêmement malhonnête, un trou de cul, en d'autres mots, ou soit c'est un vulgaire conspi qui croit n'importe quoi puis qui résonne en termes de conspiration.
Alors, moi,
peut-être un heureux mélange des deux.
Je persiste à croire que ce gars-là n'a pas le niveau d'intelligence requis pour faire un double reverse de ce genre-là. Oublie ça. Puis là, je veux revenir.
Il n'a jamais démontré ça.
Mais non, c'est ça.
Il a jamais fait quelque chose de « Oh, ça, c'est brillant, ça. » Non. C'est tout le temps dit.
C'est ça.
C'est à toutes les fois qu'il parle, qu'il fait quelque chose, c'est tout le temps... C'est toujours pour faire étalage de son imbécilité.
C'est peut-être un authentique imbécile. Ça fait très longtemps, Frank, que je ne me suis pas fait autant écrire, commenter directement là, sur un épisode du crachoir, peu importe lequel, que hier. Je veux juste répondre à ça, là. Je veux juste commenter ça, là. Puis peut-être que tu as des affaires à dire. On ne s'est pas concerté avant. Écoute, les deux, on est arrivés enragés noirs. Ça n'a pas de sens. Des fois, là, puis vous autres aussi, là, hein, c'est pas parce qu'on anime un show, là. Tu sais, il y a des trop-pleins, là. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, la canisse d'imbécilité, le couvert saute, puis il faut que ça sorte, là. Nous autres, on est chanceux. On a vous autres. Puis on a un exutoire, tu sais, qui s'appelle le crachoir.
On a un crachoir.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est exactement ça. Fait qu'on est, chanceux. Par contre, tu sais, je l'ai monté le show hier, puis je l'ai réécouté un peu, là, quand même pas tout, j'ai pas toujours le temps de faire ça. Mais non, mais tu sais, je me suis dit, hey, on l'a, tu sais, échappé. Hey, fuck off, là, pas échappé, pas en tout. Moi-même, te dire que si on avait voulu, ça aurait été pire que ça.
J'ai eu un doute parce que je sais qu'on y est allé fort, particulièrement moi, je pense. puis je remarque que c'est pas ceux qui me suivent depuis plusieurs années, c'est pas quelque chose qui est étranger à mon caractère. Là. Je me suis plutôt calmé dans les dernières années.
C'est vrai.
J'ai essayé de me tempérer puis d'être moins acerbe, moins hargneux, des fois dans mes critiques. Mais le calice de gros Chris de dommé plein de marde! Lui, non.
Non, il n'y a rien à faire.
J'ai eu un doute parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires du chat hier du show. Tu vas trop loin, Frank. Je suis pas sûr qu'il y ait une limite. Là. À part les limites légales, là, je pense que. Je vais le résumer comme ça. Il n'y a pas de mots assez laids puis de vocabulaire assez vil pour décrire un personnage comme Maxime Bernier.
Bon, hey, moi, je veux te conter une histoire, Frank. Ça va complètement déchanter de ce qu'on est en train de discuter là. Puis peut-être que ça va peut-être interpeller des gens, peut-être pas. Je te conte l'histoire. Okay? Il existe une organisation sportive qui est centenaire, qui s'appelle la PGA. Oui. C'est évidemment le tour professionnel des golfeurs le plus reconnu sur la Terre.
Professional Golfers
Association. C'est ça. C'est une institution richissime. C'est un empire médiatique. C'est un empire, c'est une marque de commerce reconnue partout sur la Terre. C'est le golf. OK? C'est l'institution.
Ils te donnent juste un coach.
C'est un tournoi, là. Mais c'est une institution mondiale en matière de ce sport-là. Et là, il est arrivé une bombe. OK? Je t'explique. Fait que la PGA, c'est l'endroit où tu veux jouer. Là. Si tu joues au hockey, tu veux jouer dans la NHL. Si tu joues au golf, tu veux jouer à la PGA.
Oui,
puis écoute, c'est pas facile. Là. Tu sais, je veux dire, c'est très lucratif. Il y a des athlètes. Bon, là, il y en a qui vont dire que c'est un jeu d'adresse. Il y en a d'autres, bon, m'en fous, là, c'est un sport. Pour moi, c'est un sport. C'est pas mal mon sport, je dirais. Puis là, il s'est passé quelque chose. C'est que il y a la PGA, puis il y a plein de circuits de golf qui gravitent autour de la PGA. qui ne sont pas la PGA. Il y a la PGA Europe qui est comme entérinée par la PGA, là, mais tu sais, il y en a plein d'autres.
La WPGA.
Non, c'est PGA Europe, là, that's it. Puis, tu sais.
Il n'y en a pas une, mais c'est une ligue pour les femmes.
Oui, mais c'est la PGA pareil. Fait, okay. ça n'a pas de. C'est PGA féminine. Mais, tu sais, puis là, tu as des circuits un peu partout. Tu en as en Asie, tu en as en Australie, tu en as un peu partout. Puis là, ben ça coexiste dans un équilibre, tu sais, très... Tu sais, je veux dire... Puis l'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'endroit aussi le plus payant de jouer au golf. Tu sais, tu finis 32e, tu repars à 40 000, là, genre. Là,
Ok, ouais.
Non, c'est ça, là. Tu sais, fait que c'est une très bon... très bonne. Oui, oh, c'est la LPGA, ben bon, les amis, pays. Mais c'est la même affaire. Là. On parle de la même affaire. C'est régi par les mêmes personnes. Okay. Et là, ben, c'est bâti en 2020 un circuit alternatif. C'est à partir qu'une gang de gars qui ont finalement. Il y a des intérêts saoudiens qui ont acquis ça. Puis là, ça s'appelle Live Golf. Okay? Donc, ils ont parti un circuit alternatif à grands frais. Ils ont changé un petit peu les règles du jeu aussi. Tu sais, normalement, un tournoi de golf sur la PGA, c'est 4 rondes. Ça commence le jeudi. La ronde finale, c'est le dimanche et tout ça. Bien, eux autres, ils ont décidé de révolutionner ça un petit peu, de rendre ça un peu plus télévisuel, de faire un petit peu plus un show avec ça. Il y a du match play. Match play, c'est 1 contre 1. Il y a 18 trous sur un terrain de golf. Si tu es en avance de 3 trous, il en reste 2, tu as gagné le match. C'est un peu moins long. Tu sais, ils ont essayé de moderniser un peu. L'autre affaire, live en chiffre romain, ça veut dire 54. Donc, c'est plus 4 rondes, c'est 3. C'est plus 72 trous, c'est 3. Tu comprends? Fait que, ils ont tout un peu modifié ça. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que tout ça, ce qu'il faut comprendre, l'enjeu réel dans cette histoire-là, c'est que c'est l'Arabie saoudite qui tente de redorer son image mondiale à travers le sport. Donc, c'est pour ça que ce sont des intérêts saoudiens qui se sont portés acquéreurs de Live Golf. Et là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à aller chercher des golfeurs d'importance, de renom, de la PGA, en leur offrant des salaires mirobolants. Tu regardes, il m'a donné un exemple. Phil Mickelson, qui est une légende du golf, un gaucher, qui est très rare au golf, d'ailleurs. Pas au Québec, mais partout sur la terre. Et okay. Ils sont allés le chercher, ils ont donné un contrat de 200 millions. Il a dit, toi, tu t'en viens jouer ici. Que tu gagnes ou perdes, là, on te donne 200. Bien-t'en. Ils ont essayé Tiger, 700-800 millions, ça a l'air de l'offre qu'ils ont fait. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des joueurs, comme Rory McIlroy, comme Phil Mickelson, Tiger Woods, qui ont décidé, eux autres, qu'ils ne voulaient pas jumper de ship, qu'ils ne voulaient pas aller à Live Golf, parce que moi, je suis un gars de la PGA, je reste à la PGA, le bras, l'organe de golf mondial, c'est la PGA, puis je suis contre le fait que l'Arabie saoudite, qui est rétrograde, qui a des visions au sujet de la femme et tout ça, je veux rien savoir.
C'est une théocratie épouvantable.
Ouais. D'ailleurs, grosse claque dans le dos à Tiger.
Des millions, je m'en sais, on dit ça.
Oui, mais c'est pas nécessairement... C'est-à-dire que ceux qui sont restés à PGA, ce que je comprends, ceux qui sont restés à la PGA, c'était pas une affaire d'argent. Mais ceux qui sont allés chez Live Golf, c'était une affaire d'argent. OK? Fait qu'il y a plein de golfeurs, des golfeurs très connus, Dustin Johnson, Ian Poulter, tu sais, des golfeurs hyper connus, talentueux, qui ont décidé de jumper à Live Golf. Et là, ben, ils ont eu des répercussions, parce que là, la PGA a dit, tu pourras plus jamais revenir sur la PGA si t'en vas du côté de Live Golf. C'est fini. Il y a eu un paquet de poursuites qui ont été intentées de part et d'autre pour, du copyright, de la propriété intellectuelle, un paquet de patentes. Là, tu sais, une guerre là, qui s'opère depuis 2 ans à peu près, là, 2 ans et demi. Il y avait une série sur Netflix, j'ai oublié le titre, mais on suivait des golfeurs aussi. Puis on voit Live Golf arriver, on voit Ian Poulter jumper à Live Golf. Tu le vois, ils jasent avec, il est chez eux. Ouais, mais là, moi, je vais faire ce qui est important pour ma famille. Puis blablabla. Et, fait que, puis là, je veux insister, là, je veux revenir sur le fait que ça appartient à des intérêts saoudiens. Bien, c'est pas d'hier. Je t'explique pourquoi je dis ça. C'est que la WWE, la lutte, tient des galas en Arabie saoudite depuis 4-5 ans à peu près. Le roi saoudien a expressément demandé à Vince McMahon à grands coups de millions. Là, c'est genre à tous les fois qu'ils font un gros gala, ils payent genre 50-60 millions.
Ils achètent tout ce qu'ils veulent et qui ils veulent. Eux autres,
c'est ça, exactement. Même la WWE vient d'être vendue à Endeavor, qui est propriétaire de la UFC. Puis jusqu'à minuit moins 5, Le fonds saoudien était sur les rangs pour acheter la WWE, encore une fois, pour ouvrir ses portes sur le monde, tenir des galas. Puis, tu sais, quand il y a un gala de lutte là, en Arabie Saoudite, là, tu sais, les femmes, là, ils sont régis quand même par les règles de l'Arabie Saoudite. Fait que, tu sais, ils sont en pyjama, là, comme, c'est littéralement, là, j'exagère, mais tu sais, tu ne peux voir le moins possible de peau, là. Tu sais, fait qu'ils ont des. C'est des cols jusqu'en. Tu sais, fait qu'ils ont des genres de body suit, là.
J'allais faire une joke niaiseuse sur on va voir le retour de Iron Sheik, mais là, j'apprends qu'il est décédé.
Hein? Ben, je sais pas.
Ouvre la boucherie.
Ben ouais, mais je suis en train de faire un show, je regarderai
ouais,
ça.
Ouais, vas-y, après. Je m'en occupe.
OK, mais ben oui, puis écoute, là, l'Iron Sheik, c'est une légende, là, mais il venait de l'Iran, en fait, lui. Il venait pas d'Arabie Saoudite. Mais donc, ça a même été un bodyguard du Shah d'Iran, by the way. Mais, fait que c'est pas d'hier que l'Arabie Saoudite se sert d'investissement sportif pour justement tenter de redorer son blason et de... Fait que là, imagine-toi donc, que là, malgré... Puis là, c'est important, là, parce qu'il y a plein de golfeurs qui sont restés à PGA qui ont fait des déclarations incroyables. Au moment où ils commençaient à avoir des golfeurs de la PGA qui s'en allaient du côté de Live Golf, ben tu sais, t'avais du monde qui commentait carrément, là, tu sais. Il y avait un Kodak d'en face puis un micro, puis il disait, oui, Dustin Johnson, c'est un trou de cul d'aller jouer à Live Golf. Tous ceux qui ont Phil Mickelson, ils peuvent bien aller sur le diable. C'est une sorte de commentaire demain. Puis là, imagine-toi donc, Frank, la nouvelle est sortie. Live Golf et la PGA fusionnent.
OK.
La personne qui va être en charge de gérer la PGA, ça va maintenant être un Saoudien. Et là, il n'y a pas juste dans les forêts du Québec qu'il y a un incendie, dans le monde du golf aussi. Parce que même Rory McIlroy, qui est une des plus grandes vedettes du golf des 10 dernières années, je dirais, dit « C'est bien beau qu'ils fusionnent, mais Liv, c'est de la merde. Ça va chier, mon vieux, bord en bord. »
Avant qu'il y ait un sentiment de loyauté, je pense que ça va écorcher bien du monde. Puis c'est pas parce que c'est un Saoudien comme tel, mais c'est parce que c'est pas...
Ben, c'est carrément ça.
On a quelque chose contre les Saoudiens, genre les gens, mais c'est parce qu'ils vivent dans un État qui est une théocratie extrêmement répressive. Là,
non, ça va donner des résultats. Là, j'ai pas fini d'éplucher ça. Je sais pas si je vais en reparler, mais tu sais, c'est ni plus ni moins. Là, j'essaye. Écoute, c'est quasiment comme si la Fédéla Tapouette fusionnait avec Centraide. Là.
Non, avec la fondation du docteur Julien.
ça, en tout cas.
Mais, c'est épouvantable.
Mais, fait que, tu sais, c'est comme... Puis là, ben, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? T'sais, est-ce que, là, les puristes qui ont jamais tourné le dos à PGA, puis je parle des fans aussi, là, parce que, tu sais, c'était à plus petite échelle quand même. Tu sais, Live Golf présentait moins d'événements annuellement. Là, l'autre problématique que tu vas avoir, c'est que tu avais avant, c'est que Live Golf, ils se sont, quand je te dis ils voulaient moderniser le golf, je vais te donner un exemple, les événements de Live Golf n'étaient pas présentés sur des chaînes câblées, c'était présenté sur DAZN, D-A-Z-N, qui est une grosse plateforme de sport américaine. Il y a beaucoup de sports de combat là-dessus, mais il y a toutes sortes d'affaires à Star. Tu avais des affiliés de CBS, qui est propriétaire des droits de diffusion de la PGA, que la TV américaine, c'est pas comme ici. OK, c'est pas légiféré par la CRT. Oui, il y a le FTC, là, mais c'est pas nécessairement géré de la même façon. Fait que tu sais, tu peux avoir un gros réseau de télé qui est propriétaire d'un paquet de stations physiques, mais dont certaines sont affiliées avec CBS, d'autres avec NBC. Mais ça peut être un bras, je pense à Sinclair, qui est un gros regroupement de TV américaine. Nexstar aussi, qui est un gros repris. Mais là-dedans, tu peux avoir du CBS. Regarde, rappelle-toi, même concept, là. Rappelle-toi RNC Media, tu sais, qui opérait les trois stations. Même concept, même affaire.
On avait TVA, Radio-Canada, puis VTV
dans un studio, c'est ça.
Et Radio X et Planète Radio. C'était cinq médias dans la même bâtisse.
C'est ça. Fait que tu peux être un opérateur de quelque chose qui a un logo CBS dessus puis appartenir à Pierre-Jean-Jacques. Fait que tout ça a créé un paquet de situations débiles. Fait que là, ce qui est probablement arrivé, qui se rend ça quand même intéressant au niveau médiatique, parce que c'est huge, là. Ben, c'est sûr, le système Le Golf, mais moi, c'est l'espèce de spectre de l'Arabie Saoudite en arrière que je trouve intéressant de regarder aller. Ben là, c'est, tu te ramasses avec un sport écossais qui était que les Américains, par la force des choses, se sont accaparés, en ont fait un empire médiatique sportif de marque de commerce planétaire. Là, ouais. Tu as des compétiteurs qui décident de partir une affaire sur le site, qui ont tout à fait le droit de faire. Le golf appartient à personne. C'est un sport. Là, tu as eu, des toutes les poursuites là, dont je te parlais tantôt, là, à grands coups de millions, là, c'est des deals de sponsorship, des droits de diffusion sur certains territoires, de l'infringement de copyright, tout ça. Ben, moi, je pense que là, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont dit, regarde, on arrête tout ça là, puis on fusionne dessus, puis on va être encore plus fucking gros, puis on va encore faire plus de fucking cash. Puis c'est à nous autres, le golf, puis regarde, on les envoie tout promener. Puis là, ben les Saoudiens ont dû faire un deal tellement sucré, mon gars, que la PGA se sont dit, hey, on assure notre pérennité pour les 300 prochaines années. Bring it.
Ouais,
c'est ça qui est arrivé. Fait que le sport, les fans. Tu sais, la PGA, une des affaires qui était vraiment extraordinaire qu'ils faisaient, c'est que, tu sais, jouer au golf, là, Frank, ça coûte cher. OK? Un set de golf qui a de l'allure, c'est 1 200 $. Aller jouer une ronde de golf quelque part, ça, c'est quasiment une journée de 150. T'as pas, puis là, t'as juste rentré sur le terrain. T'as pas pris une bière, t'as rien mangé, t'as pas acheté de balles, t'as pas de gants, t'as pas de souliers. Ouais. C'est ça. Fait que ça coûte cher. Fait qu'eux autres, la PGA, ce qu'ils ont fait dans leur stratégie de pénétration de moyens, là, si tu veux, de dans les banlieues, là, c'est qu'ils ont essayé de rendre le golf hyper accessible. Fait que tu sais, t'avais Tiger qui allait à Brooklyn avec des enfants au driving range, tu sais, puis tout, puis ça a marché. Ça a vraiment
ça
marché.
Ça avait une image accessible.
Oui. Ouais. Tiger a démocratisé un petit peu le golf aussi pour des raisons que je n'ai pas besoin de t'expliquer là, de couleur. Mais, tu sais, écoute, Tiger, il a gagné le US Open sur un terrain où, 10 ans avant, il n'avait même pas le droit de jouer. T'sais, tu vois le genre, là? Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est complètement débile. Les pubs de Nike de l'époque étaient magistrales. Puis là, évidemment, tu connais l'histoire de la chute de Tiger, puis sa réascension. Tu sais, c'est... Ben, fait que ça va donner lieu, d'après moi, à quelque chose d'assez intéressant. Écoute, moi, c'est sûr que je suis beaucoup moins le golf qu'avant. Je joue plus parce que mes bâtons sont au tennis, là. Mais tu sais, j'ai longtemps joué une centaine de games par année, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, ben je ne sais pas ce à quoi ça va donner lieu. Je ne sais pas si, tu sais, ils vont changer un peu le modèle golfique aussi. Tu sais, est-ce qu'un tournoi va passer à 54 trous au lieu de 72? Tu sais, tout ça. Mais dans le monde sportif et dans le monde du golf, c'est la plus grosse nouvelle de l'histoire. Je te le dis, là, c'est la plus grosse nouvelle de l'histoire. Parce que, justement, là, ça va. Imagine-toi, là. Pense à ça 2 secondes. Rory McIlroy qui dit de Phil Mickelson que c'est un trou de cul de jouer à Live Golf. Bien là, l'année prochaine, là, ils vont jouer dans les mêmes tournois.
Jouer ensemble.
Ça va être évident. Imagine-toi s'ils sont sur le même twosome, là, le dimanche. Fait que là, les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors oui, nous avons ici le porte-étendard de Live Golf qui est en finale contre Rory McIlroy ou Tiger Woods puis tout. Cette gars, ça va donner lieu à des affaires de capoter, là.
Fait que, spécial.
Ouais, non, c'est ça. Fait que, écoute, vous allez sûrement voir beaucoup de... Peut-être moins dans la presse, mais dans le Journal de Montréal, là, qui est quand même un peu plus sports, là. Vous allez entendre parler de ça, bien là, vous savez l'histoire. C'est ça, l'histoire, c'est que finalement, ces deux ennemis jurés ont décidé de fusionner ensemble au grand dam. Parce que là, les grands déçus de ça, c'est les golfeurs. Parce qu'il y en a plein qui ont pris position et qui ont dit, ben moi, je m'en vais du côté de Live Golf parce que c'est la modernisation d'un sport archaïque. Puis en plus, je vais faire la grosse fucking... Il y a ta gueule, là, c'est pour l'argent, là, va chier, là. Fais-nous pas des accroires. Puis là, après ça, de l'autre côté, ben, t'as Tiger, t'as Rory McIlroy, t'as tous ceux qui ont tenu tête à Live Golf et qui ont dit non, moi, j'irai pas chez vous. Tu sais, juste te donner un exemple. Tu sais, la rockstar du golf dans les années 80, fin 80, début 90, là, c'est un Australien qui s'appelle Greg Norman. C'est sûr que t'as déjà entendu ce nom-là.
Oui.
Le Shark, OK? Ce gars-là est devenu encore plus gazilliardaire avec le golf après sa carrière parce qu'il y a du linge avec son logo, le Shark, dessus. Ben, c'est lui qui a mis boss de Leaf Golf. Tu sais, tu vois, tout de suite, ça partait
ouais,
de
même. Il place leur BI, puis ils veulent faire leur marque en arrivant.
Exactement. Fait que là, ben, si vous voyez des trucs passer là-dessus, si vous ne comprenez pas pourquoi Tiger Woods envoie chier l'Arabie Saoudite ou des affaires comme ça, ben, c'est ça l'histoire. c'est que là, il y a un gros power play qui vient de s'opérer. La PGA puis Leaf Golf ont décidé d'enterrer la hache de guerre, de fusionner ensemble. Puis là, bon, on va voir ce que ça va donner du côté de ce sport ou du coup de ce jeu-là. Puis ça va être intéressant.
C'est un sport élitiste, mais un sport quand même. Je veux dire, c'est de l'habilité physique. Ça prend une coordination. Puis moi, je pense que j'ai joué 3 games dans toute ma vie, là. Puis ça prend tellement de travail et de pratique avant d'être un peu capable de jouer. Là. Ben. Moi, j'ai passé mon temps dans l'hobby, là, tu sais, évidemment.
Ben,
regarde. Il y a eu du fun à driver pas mal, par exemple. Ça, aller driver, j'ai fait ça souvent, mais jouer au golf, premièrement, c'est beaucoup trop cher. Là, quand on dit que c'est un sport d'élite, ouais, c'en est un.
C'est très cher. Un sport de riche, là, ça, c'est vrai. C'est sûr que, regarde, si tu développes...
C'est là que tu fais des bons deals entre les politiciens, puis des médecins, puis des avocats. Puis...
Ben, regarde, je vais te l'expliquer. Tu sais, tout le monde, oh, le golf, c'est un sport de riche, Oui.
Oui.
Sauf que, regarde, si tu es dans le milieu des affaires, je vais vous l'expliquer pourquoi que c'est prisé. Il n'existe aucune autre occasion de passer 4 heures avec quelqu'un qu'une game de golf.
C'est ça.
Fait que si tu as un deal à closer... Si tu veux, puis l'autre affaire, il y a 2 jeux que moi je considère qui sont les jeux qui peuvent le plus te démontrer le caractère de quelqu'un. OK? Tu veux vraiment connaître la personnalité de la personne avec qui tu t'en vas en business. Es-tu patient? Es-tu un tricheur? Es-tu quelqu'un qui. Es-tu menteur? Es-tu. Bon, il y en a 2. Il y a le poker.
Es-tu agressif et toi?
Il y a le poker, puis il y a le golf. C'est les deux principes. Il y en a plein d'autres, là, mais moi, c'est
ton
sûr que je considère.
Ton caractère va ressortir pendant ces 4 heures de jeu. Là,
c'est ça. Fait que là, ben, quand tu t'appelles un client potentiel, que ça fait 2 ans que tu travailles, puis tu dis « Hey, ça te tente-tu, j'ai un tee-off au Mirage, ou tu sais, une belle traque de golf, là. » Puis tu dis « Vendredi, 2 heures, t'es-tu libre? »« Ouais, Mirage, ben oui, j'y vais. » Toi, tu fais comme « Yes, sir.
» Il y en a qui sont plus accessibles, tu sais, des petits 9 trous par 3, là, tu sais, mais c'est pas
c'est
le même.
C'est pas du golf.
C'est ça, tu sais, c'est driver dans de la tourbe. T'avais-tu fini avec ça,
oui,
Martin?
J'ai fini.
Ben, je vais t'informer, ça vient d'un site français parce qu'on parle d'un catcheur, mais le lutteur Iron Sheik est mort, c'est sorti aujourd'hui même la nouvelle. On donne pas les raisons de son décès, né en 42, il est mort cette année, évidemment, 81 ans.
Oui. C'est un miracle, c'est, en fait. 81 ans, pour lui, c'est un miracle. Si vous êtes fan...
N'importe quel lutteur. Hein,
j'ai déjà fait une série de 2 épisodes qui raconte de fond en comble la vie de l'Iron Sheik, là, son importance dans le monde de la lutte, son histoire incroyable. C'est un gars qui a été le bodyguard du Shah d'Iran, qui a immigré aux États-Unis, qui devenait assistant coach de l'équipe de lutte. Je sais pas, lui, c'est gréco-romaine. L'équipe olympique américaine, il a été assistant coach auprès de ces gens-là au Minnesota, en fait, qui s'est installé. C'est Vern Gagné, un promoteur émérite de ces années-là. Et après ça, ben, c'est...
Gagné la première Battle Royale.
C'est lui qui a accepté lorsque Vince McMahon senior a décidé... Non, Vince McMahon junior a décidé de faire Dolph Hogan son champion. Ça a été lui le champion de transition. Et c'est à lui qu'on a confié le rôle d'accepter ça, parce que je sais pas si vous le saviez, mais c'est scénarisé, la lutte. Et puis si Iron Sheik avait pas voulu que Hulk Hogan gagne, il aurait fait un prédile avec. Là. C'est un des shooters. Oh. Oh, ouais, c'est un des shooters. Shooter, là, ça veut dire être un legit lutteur, là, amateur, là, gréco-romaine, style libre, peu importe. Puis l'Iron Sheik, c'est un des gars que t'écœurais pas backstage. Puis c'est quand il a décidé d'adopter son rôle d'Iron Sheik, parce qu'avant ça, c'était pas ça pantoute, son vrai nom, c'est Khosrow Vaziri plutôt. Et fait qu'il y avait un personnage bien standard, là, un lutteur, là, pas de moustache, rien.
J'ai son Hossein Khosrow Ali Vaziri.
Ouais, ouais, mais le Ali.
C'est parce que je le lis, là, c'est pas parce que je le sais.
Mais non, puis Hossein, là, c'est comme toi, c'est ton baptistère Joseph. Là. C'est
ouais, ouais, Joseph François Norbert.
Ouais, 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 c'est ça. Puis après ça, ben plus tard, écoute, là, il y a eu plusieurs. Puis c'est un gars qui revient de loin, le problème de consommation et tout ça. Et je vais, si tu veux qu'on aille à la pause après, je vais vous laisser sur la meilleure histoire, une des meilleures histoires de lutte que j'ai jamais entendues. Donc, Iron Sheik ou Cosro, comme tout le monde l'appelait backstage, il se fait dire que dans la foulée des scandales, des stéroïdes et tout ça, puis d'utilisation de drogue par les lutteurs, il se fait dire par quelqu'un backstage, « Hey, Cosro, il va avoir des tests anti-drogue à Star. » Puis là, lui, là, on s'entend, là, on parle de poudre, potes, boissons, tout le kit. Fait que là, il dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis tout, ben là, faut arriver là-bas, là, puis tout, puis on prend une prise de sang, puis un test de pisse, puis blablabla, puis le kit. Fait qu'il fait ça. Il revient une couple d'heures plus tard, puis tout, puis là, ça va voir le gars qui a dit d'aller passer le test. Fait que là, il dit, hey, on a eu tes résultats de test. Ah ouais, puis, ben, c'est positif. Yes! Yes, sir! C'est Cosro. C'est Cosro. Alors, quel personnage.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantie.
Je vais, avant d'aller plus vers le prochain sujet, je vais juste tordre le cou à une légende urbaine très, très, très populaire. Golf, ça ne veut pas dire gentleman only, ladies forbidden. C'est une dérivation du mot hollandais golf ou colve, puis ça veut juste dire club. Club. Fait que, mais j'avoue que c'est tentant de dire ça, puis c'est le fun à croire. C'est, moi, c'était vrai. Là. Il a fallu que j'aille me renseigner, là, mais.
C'est probablement.
C'est, vrai que ça tombait sous
le sens. C'est un des sports aussi où est-ce qu'il y a le plus de mots qui n'ont pas rapport avec leur signification. C'est comme un coup, tu appelles ça. Un coup, tu appelles ça stroke. Tu sais, il y a un paquet, un peu comme au tennis, tu sais, 15 love, tu sais, pourquoi love, pourquoi zéro, c'est love, tu sais, bon, il y a plein d'affaires de
même. Pourquoi 0, 15, 30, 45,
ça? Là, c'est 40, là, mais ouais. Mais il y a plein
d'avantages, puis il a signé.
Ouais, c'est ça, il y a plein, ça là, son, puis ici, tu sais, comment parler de golf et ne pas parler du fameux sketch de Robin Williams qui raconte avec l'accent écossais. Si vous avez jamais vu ça, allez voir ça, c'est fantastique. Il raconte l'invention du golf puis à quel point la prémisse du number, c'est vraiment que le golf, c'est cave. Mais tu sais, il y a juste Robin Williams pour raconter ça. Fait que là, tu sais, il dit là, tu t'en vas, puis là, tu te promènes, t'as un petit bâton, nanana, puis là, à la façon Robin Williams. Puis là, il dit OK, mais là, après ça, tu fais ça une fois, puis c'est fini. No! 18 fucking times! Fait que c'est vraiment drôle, hein, quand les voir.
On peut réduire n'importe quel sport à sa plus simple expression. Ben oui, ça devient ridicule. Là, OK, c'est des gars en armure qui se battent pour un petit bout de caoutchouc pour le crisser dans un filet. Le basketball, c'est du monde en camisole, en pyjama, qui se tiraille pour mettre un ballon d'une poubelle. T'sais, on peut tout réduire les sports. Mais quand c'est Robin Williams qui le fait, c'est certain que c'est bon. C'est, on parle d'un des plus grands. On connaît la reine Feu, la reine du Canada et du Royaume-Uni et de tout le Commonwealth. On connaît la vraie reine du Canada qui est Romana du Dildo. Ben, maintenant, en tout cas, moi, je ne la connaissais pas, mais il y a une reine de Canis Attaqué. Il y a eu une perquisition chez elle. Ben oui, la police a eu le cran d'aller là. Mais bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas allés là en bédaine. Ils sont arrivés là avec un blindé juste au cas. Beaucoup de policiers, puis effectivement, le véhicule blindé sont débarqués dans le territoire Mohawk pour aller amener des perquisitions dans des bâtiments commerciaux qui appartiennent à cette reine de Canet Sataké. C'est on la décrit comme la narcotrafiquante Sharon Simon. Fait que, tu sais, c'est comme pas caché ben, là, c'est ça qu'elle fait dans la vie, c'est une narcotrafiquante, on l'affirme dans le journal de Montréal. Puis bon, évidemment, bon, ils ont fouillé sa résidence principale, son nouveau casino, et sa station-service, et sa cabane à potes, évidemment, la cabane à potes. Mais ça a l'air que c'est pas juste du pote qu'il y avait là-dedans. Donc, ça s'est passé sur l'heure du dîner, puis bon, ils sont rentrés là, puis évidemment, avec un petit peu de crainte, la plupart des policiers, dit-on dans l'article, n'étaient pas très chaud à aller là. On se rappelle de la crise d'Oka, on se rappelle de Marcel Lemay, qui est un soldat qui a été tué durant la crise d'Oka. C'est certain que quand tu vas là, tu sais pas comment ça va revirer. Parce que des fois, ça résiste et ces gens-là sont armés. Je parle pas de tous les résidents de Canis attaqués, mais ceux qui sont dans le milieu criminel là, sont pas mal armés. D'ailleurs, il y a des liens avec les Hells Angels qui sont évidents.
Ouais.
D'ailleurs, cette perquisition-là ou cette série de perquisitions-là, ça s'inscrit dans le cadre d'une enquête qui vise aussi des membres influents des Hells Angels. Puis Sharon Simon, la reine de Canis attaquée, c'est la mère de Annie Arbic. C'est celle qui s'était fait remarquer avec son mariage en 2018 en plein cœur du centre-ville de Montréal avec un Hells Angels très, très influent qui s'appelle Martin Robert. Puis évidemment, ça avait fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Donc, on a squeezé. Mais on n'a arrêté personne. Fait que, tu sais, on y va. On check s'il y a de la drogue. On vire pas fou. On n'arrête personne. On va là en truc blindé. Puis on sort de là. Fait que, je sais pas à quoi ça va mener. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura des arrestations? J'imagine que c'est le but ultime. Mais osera-t-on les faire? Puis si on les fait, comment ça va se passer? Ben ça, c'est bien dur de prédire ça. Mais en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir eu de résistance. Ça a l'air de s'être bien passé. Ça n'a pas fait de crise au cas numéro 2. Puis on s'entend aussi que c'est pas le même contexte. Là. On parle de quelqu'un qui est impliqué dans le trafic de drogue. Puis bon. Mais en tout cas, je pense qu'on veut montrer que l'impunité, puis ouais. et ces gens-là ne jouissent pas nécessairement d'une immunité totale, même si c'est ce qu'on a pu observer dans le cas du dépotoir où même les pompiers n'ont pas le droit de se rendre pour éteindre des incendies. Là.
Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, rappelle-toi aussi, là, tu sais, dans le contexte de ce que tu as suivi il y a une semaine ou deux, tu sais, qu'il y avait eu des. C'est compliqué. C'est à boire que c'est compliqué. Puis, ouais. c'est un gros spaghette de complexité parce que là, tu sais, il y a la notion de territoires ancestraux. Il y a la notion de droits acquis. Il y a la notion de.
On dirait deux nations ennemies qui essaient de négocier des affaires. Peut-être qu'on jase avec la Corée du Nord ou la Russie.
C'est ça.
Je t'entends en train de dire qu'eux autres, c'est de la Corée du Nord, c'est de la Russie, puis nous, c'est des gentils. Là. Mais c'est pas ça du tout, mais c'est juste que c'est comme une société parallèle au cœur de notre société à nous autres. Fait que ils sont pas soumis aux mêmes lois. Là. On regardait les choses
non,
en
puis,
face.
Faut dire les vraies affaires. Là, fondamentalement, là, sur la base de la prise de possession de leur territoire, puis tout ça, tu sais, sur le fond, c'est difficilement attaquable. Tu sais, il y a eu des traités. Il y a des droits qui leur sont acquis qui font en sorte qu'il y a des choses qu'ils ont le droit de faire. Puis tu sais, moi, d'une certaine façon, puis je suis pas loin de moi, là, on recevra Alexis, au pire, Alex, à un moment donné. Mais tu sais, c'est que, tu sais, je veux dire, ces acquis-là, ils ont quand même payé fucking cher, là. Tu sais, si tu parles de toute la notion de tabac, puis toute la notion de jeu de hasard, puis, tu sais, je veux dire, ils font. Il y a des excès, mais je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, là. Tu sais, je veux dire, si tu regardes à Châteauguay, tu sais. Le Playground Poker Club, tu sais, ça appartient à réserve, c'est géré par la réserve. Ils ont le droit de faire tout ce que tu n'as pas le droit de faire ailleurs au Québec parce que c'est l'Auto-Québec qui régit ça. C'est virant casino, il y a des projets d'hôteliers à côté, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, puis d'un autre côté, ben, tu sais, il y a des difficultés psychosociales sur les réserves. En même temps que ça, c'est compliqué en tabouaire. Fait que là, tu sais, à la fin de la journée, s'il se passe de quoi d'illégal, s'il se passe de quoi, ben, tu sais, tu te mets le pied vraiment d'un nid de guêpe parce que tu le sais qu'il va falloir que tu deals avec tout le red tape associé au fait que ça se passe sur une réserve. Et c'est là le fond du problème. C'est pas plus dur que ça.
Tu sais que la police est pas la bienvenue, puis même que les peacekeepers se sont fait ravager leur poste de police. Il y a plus de police, là. Il y a plus de service de police dans la réserve du tout, là, ou à peine. Là,
c'est ça.
Quand il y a un appel 911 pour n'importe quelle raison, on arrive là avec du backup, puis là, Fait que, tu sais, on rentre là sur, en s'excusant de, tu sais, c'est...
Une simple intervention, tu sais, qui serait d'aller récupérer quelqu'un, puis tout devient complexe. Il y a un niveau de stress qui augmente, il y a un niveau de...
déclencher un événement...
C'est ça, le coefficient de difficulté. Le coefficient de difficulté de l'opération augmente. T'sais, c'est pas comme, hey, je sais que Godas Gagnier est au 800, telle adresse, tu débarques, tu le ramasses, c'est fini. S'il est sur une res, c'est pas pareil. C'est that's it.
Tu voulais me parler des PME, c'est la fameuse aide, ça joue l'aide d'urgence aux entreprises, ça a aidé sur le coup, mais là...
Écoute, selon, c'est un article qui est paru dans le Journal de Montréal, selon, d'ici 2024, il y aurait 250 000 PME qui sont à risque de fermer. Tout ça à cause de leur incapacité de rembourser... des prêts du CUEC, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est quoi ça? Ben, c'était le fonds d'urgence qui avait été créé, évidemment, avant la pandémie, là. C'est-à-dire dans le cadre de la pandémie en avril 2020. La date limite pour rembourser ces prêts-là, actuellement, c'est le 31 décembre 2023. Elle a déjà été repoussée. OK? Et là, bien, ce que ça donne comme... au Québec, c'est 34 % des PME qui sont susceptibles de dépasser la date limite de remboursement de leurs prêts du CUSC. C'est 17 % des entreprises qui sont à risque de carrément fermer. Quand je parle de 250 000, évidemment, c'est pas au Québec. Là, c'est de l'aide fédérale. Là, c'est au Canada. Que la demande de ces propriétaires d'entreprises-là, elle est très simple, c'est de repousser le délai. Puis moi, je vois pas comment... c'est 9 propriétaires de PME sur 10 qui ont obtenu un prêt du CUEC. Parmi ceux-ci, les trois quarts ont obtenu entre 40 et 60 000, puis le quart a obtenu 40 000 ou moins. À l'heure actuelle, c'est juste 10 % des bénéficiaires qui ont remboursé ce prêt-là. T'sais, là, je n'ai pas devant moi ce que représentait le programme. T'sais, qu'est-ce que tu avais besoin de faire pour être éligible et tout ça. Là. C'est sûr qu'écoute, il n'y avait pas de ben de red tape. Là. Tu remplissais le formulaire et ils t'envoyaient. Puis là, ben, ça servait à quoi? Ça servait à payer des employés. Il faut se rappeler. Là. Puis là, tu te souviens-tu, je t'ai déjà dit ça textuellement, ça va être le bordel à la fin de tout ça. Ben, on est là. On est là.
On est rendu.
Je te raconte. Il y a des gens que je connais bien qui sont propriétaires de PME. Puis, regarde, je vais te donner un exemple. Okay. Tu arrives, puis tu dis moi, j'opère une business, peu importe le secteur, puis j'ai deux chiffres, mettons. Okay? Tu as un chiffre de jour, tu as un chiffre de soir. Puis là, ben, tu te ramasses dans une situation où est-ce que les gens sont confinés. Les gens, il y en a qui ne peuvent pas travailler. Il y en a qui reçoivent la PCU. Il y en a, bon. Ben là, ben oui, tu vas te dire, hey, le monde reçoit la PCU. Ils peuvent encore acheter mes produits ou avoir recours à mes services, puis blablabla. Ben non. Ben non, parce que là, tu es confiné. Il y a des affaires que tu pouvais faire avant que tu ne peux plus faire. Là. Fait que, qu'est-ce qui est resté? Ben les épiceries, la bouffe, les soins, tout ça, les pharmacies, machin. Mais là, c'est parce que le problème n'était pas juste là. Le problème, c'est que si tu voulais rester ouvert, ça prend du staff aussi. Puis là, ben il y a du staff que 2000 par mois, ça représentait plus que ce qu'ils gagnaient chez cet entrepreneur-là. C'est pas compliqué, là. Fait que tu sais, moi je dis n'importe quoi, là. Je fais 1500 par mois à travailler ici. On allait chez nous 2000. Right? Je fais 500, tu sais. Il y a pas, le monde n'a pas peur. Puis là, j'accuse personne de rien, mais tu sais, il y en a qui se sont dit, ben regarde, besoin de vacances, peu importe, on va aller chiller un peu, même, tu sais, rappelez-vous, là, le bon vieil exemple des conspis, là, tu vas aller jouer aux jeux vidéo, là, bon. Fait que là, ben ça a fait que des entrepreneurs, peu importe leur domaine d'activité, qui avaient plus de staff. Parce que là, ils gagnaient plus à rester chez eux. Fait que là, est-ce que les gens, les entrepreneurs qui ont eu recours à cette aide-là, ça a été pour juste garder la porte débarrée au lieu de, mettons, de cesser d'opérer? Puis là, ben, cesser d'opérer, ben beau, là. Tu sais, si tu fais des coupes de cheveux, c'est une affaire, là. Mais tu sais, si t'es dans l'agroalimentaire, si t'es dans des secteurs où est-ce qu'il y a une péremption de tes produits ou il y a des affaires dans le même, c'est compliqué en salle.
Et puis même si tu fais des coupes de cheveux, il y a un loyer à payer.
Ben oui, t'as des frais fixes pareils. C'est ça le problème. Oh, c'est oui, que c'est tu ça, pouvais même. Pas, tu sais, même si tu décidais de continuer d'opérer ou de continuer d'essayer de faire de quoi avec ça, les frais fixes, ils s'en vont pas, eux autres, là.
Non, c'est ça. Il faut que tu payes le loyer du salon de coiffure, de n'importe quoi, l'électricité aussi l'hiver, parce que tu peux pas dire, laisse ça geler, tu sais.
Ben voilà.
Puis, non, c'est ça. Et puis, il y a sûrement des produits à renouveler, tout ça. Dans n'importe quel business, ça coûte toujours de l'argent à chaque jour.
C'est ça. Tu sais, ouvrir la porte, tu sais, moi, je fais toujours la même joke. T'ouvrir les yeux le matin, c'est 100$. Calcule-les comme tu veux. Là. Fais le prorata de ton loyer, fais tout, additionne tout. C'est 100$ à lever le matin. Fait qu'imagine quand c'est une business, tu sais, là. On ne va pas parler d'hydro, on ne va pas parler de taxes foncières, on ne va pas parler de taxes, tu n'as pas parlé de tes ristournes, tu n'as pas parlé de gaz. Je veux dire, tu as plein de frais fixes.
Ça ne finit plus, voilà, c'est ça.
Fait que là, ben, moi, ce que je pressens qui risque de se passer, parce que de toute façon, le gouvernement fédéral, il n'aura pas le choix. S'il veut se faire rembourser ces prêts-là, il faut que les business continuent de rouler. Ils vont reculer le délai, c'est sûr. Là. Je veux dire, ils vont donner une chance aux coureurs. Là. Ils ne pourront pas se permettre que 250 000 business ferment au Canada, parce que 250 000 business qui ferment, ben, c'est 250 000 business qui n'emploient plus du monde qui travaille dedans. T'sais? Puis là, est-ce qu'il y a des secteurs où ça a fait plus mal? Est-ce qu'on va se ramasser avec des secteurs d'entrepreneurs ou en tout cas des secteurs économiques ou est-ce qu'il va y avoir pénurie de compagnies? Tu sais, qu'est-ce que les compagnies qui ont passé à travers ont fait que les compagnies qui sont en train de pas passer à travers n'ont pas fait? C'est ça qu'on ne sait pas. Parce que ça dépend. Il n'y a pas de bonne réponse. T'opères dans quel domaine? C'est quoi ton, ton cost of sale? Le coût d'une vente, le coût d'une transaction, c'est quoi dans ton domaine, dans le domaine A, B et C? T'es-tu une business qui marche à la marge ou t'es une business qui roule sur le volume? Il y a tellement de facteurs qu'ils n'auront pas le choix de dire, bon, on va vous donner une autre année ou peu importe. Et même en faisant ça, Frank, il y en a qui n'arriveront pas. Il y en a qui ne seront pas capables. Mais il faut que tu atténues cet impact-là. Puis moi, écoute, quand on était dans le pire là, de la pandémie, là, puis quand les aides gouvernementales ont commencé, que ce soit pour les citoyens ou pour les entrepreneurs, si je t'avais dit, Frank, tous ceux que les business qui vont avoir eu de l'aide gouvernementale, là, en 2023, le 31 décembre, ça va tout être payé. Tu m'aurais ri d'en face.
Ben non.
Fait que là, ben, on est là. Fait que là, c'est sûr que
c'est pas réaliste de mettre ce délai-là non plus. Puis j'imagine, tu sais, ils sont pas fous, au gouvernement. Là, ils devaient bien savoir. Là. Fait que j'imagine qu'on va leur donner un petit break. Là. On va pas les serrer à vie. Ah, tu payes pas!
Ouais, puis là, l'autre affaire, l'autre contexte qu'il faut pas oublier, sans virer dans le complot, ben, tu sais, on n'est pas si loin que ça d'élection.
Oui, puis il va falloir plaire à des gens puis sécuriser des électeurs. Hey, avant que tu nous fasses ta bonne nouvelle du jour, moi, j'ai une nouvelle insolite. L'ancien vice-président américain Mike Pence vient de décider de se lancer dans la, dans la course à l'investiture républicaine. En fait, tu sais, puis là, il va être contre Donald Trump, mais en même temps, moi, je pense qu'il va l'aider. Parce que plus le vote est divisé, plus Trump ramasse. Fait que moi, je pense qu'il va plus nuire à DeSantis qu'à Trump, même s'il est un opposant de Trump depuis que Trump l'a désigné comme traître parce qu'il n'a pas voulu refuser de valider l'élection de Joe Biden, alors que son rôle n'était que protocolaire. Mike Pence n'avait pas le pouvoir d'invalider les élections. Là,
sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Là, ce qui va commencer à s'opérer, là, c'est que là, dans le fond, ça va être une opération de charme. Parce que là, DeSantis va approcher Mike Pence, puis Donald Trump va approcher Mike Pence pour dire, là, t'arrêtes tes niaiseries, là tu vas m'appuyer au prochain congrès, là, ou whatever, là. Puis c'est un-fucking possible que Mike Pence se rende au bout du vote. Impossible.
Il y a le charisme d'une moule, tu sais, une moule morte ouverte qui pue, là. Tu sais, il est plate à mort, là. Personne va voter pour lui. Les Américains, ce qu'ils aiment, c'est un showman. Puis son straight man, comme Mike Pence, comme straight man de Donald Trump, c'était parfait. Il ferme sa gueule, il a de l'air d'un meuble en arrière, ramasse la poussière. Puis, tu sais, c'était parfait, là. C'est un bon faire-valoir pour un candidat. Mais là, tu sais, Trump, il avait traité de traître assez pour que les maniaques qui ont investi le Capitole le 6 janvier, s'en allaient là pour le pendre comme des épées. Puis là, ben évidemment, là, il s'est retourné contre son... Il a mordu son ancien maître Donald Trump en le traitant d'irresponsable, puis qui avait mis...
L'opération charme, le vote évangélique qui vient avec Mike Pence, qui doit être...
Va aller vers DeSantis.
Ben, je garde, tu dis ça, là, mais moi, il n'y a rien qui va me surprendre. T'sais, si Trump se présente avec la branche d'olivier, viens ici, mon pit, m'a fait un petit câlin, Puis là, ben, oh, regarde, on va te trouver une belle job, là, puis tu vas avoir une belle pension, là, si je t'ai lu, puis blablabla. Fait que Pence, là, s'il est comme je pense, ben, il va aller du bord qui pense qu'il a le plus de chances de gagner. Surveillez la girouette, ou en fait, le manche avant de l'élection, ça va être où Pence va aller coucher, d'après moi.
À qui il va vendre son cul, à Trump ou à DeSantis? Moi, je pense qu'il va le vendre à DeSantis. Surtout que, tu sais, il y a une approche, justement, tu sais, lui est très, très proche des. C'est un évangélique, puis il est très, très proche des intégristes chrétiens, les djihadistes de l'avortement. D'ailleurs, lui, c'est ça. C'est lui, il n'y a pas de nuance. Il est contre l'avortement, point. Il n'y a pas de circonstance. C'est un vrai bigot, un vrai intégriste religieux. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il va plus aller vers... lui, c'est un fan de Jésus. C'est un fan du Jésus américain, là, avec l'argent, le cash, puis tout. Là. Mais tandis que... Tu sais, puis Trump, lui, ben, il dit ça parce qu'il veut plaire, mais en fait, Trump est le messie de sa propre religion, là, maintenant. Là. Tu sais, les MAGA, tout ça, ça tourne autour de lui. Puis DeSantis, je pense qu'il va être plus dans la bigoterie. J'ai l'impression que je vois plus Mike Pence collé au basque de DeSantis que de Donald Trump, surtout après ce qui s'est passé, surtout avec les fans de Trump qui voulaient le pendre, puis les appels à la haine que Trump a fait envers Pence, qui l'ont carrément mis sa vie en danger. Normalement, il devrait aller du côté de DeSantis, mais je veux dire, comme toi, il n'y a rien qui peut nous surprendre maintenant.
Il va aller avec celui qui pense qu'il va gagner. Hey, Frank, ouais. Quelque chose de pas mal plus sérieux là, avant qu'on finisse ça avec une bonne nouvelle. Je veux prendre deux secondes. La communauté du podcasting au Québec, c'est une petite communauté quand même, là, qui a beaucoup grandi, là, évidemment, depuis 2016, où moi, j'ai commencé à en faire partie, puis toi aussi. Puis vous avez sûrement connu un podcast qui s'appelait, parce que à ce que je sache, moins que ce soit de brèves apparitions ou plus sporadiques, « Jamais content ». C'est des gars de Rouen, évidemment. Puis, écoute, quand moi, j'ai commencé, quand nous autres, on a commencé, eux autres étaient déjà actifs et tout ça. Puis, il y avait un bon following, puis ainsi de suite. Et il y a un des membres, évidemment, c'est des gars de Rouen, là. Gab, Steve et Sébastien. Et il y a un des membres du podcast à l'époque, là, de Jamais Content, qui a eu une nouvelle...
La pire nouvelle.
La pire nouvelle que tu peux pas avoir, c'est ça. Vous le savez qu'on n'est pas... tu sais, puis encore là, je veux faire attention aux mots que j'utilise, là, mais vous le savez qu'on n'est pas on n'est pas reconnu pour être des courroies de transmission de GoFundMe, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est tout à fait pertinent de l'être. Je viens d'épingler dans le chat, un lien vers un GoFundMe. Ce qui est arrivé, c'est pas compliqué, c'est que son plus vieux, en fait, s'appelle Logan, il y a 7 ans. Il a été diagnostiqué d'un cancer. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter qu'ils habitent à Rouyn-Noranda et dans la foulée de plusieurs... ce qu'il faut compter, c'est qu'on a des chums de Rouyn qui sont ici présentement, puis c'est là qu'on a appris cette nouvelle-là. Je ne le savais pas. Moi, je l'ai su dans les dernières heures. Puis, ils nous ont informé aussi qu'il y avait un GoFundMe. Regarde, le lien est là. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous voulez faire. Moi, je considère que, ne serait-ce que pour des raisons que je pense pas qu'on ait besoin d'expliquer, puis parce que la communauté des podcasteurs du Québec, même si tu es un ex-podcasteur, on a des histoires avec tout le monde. Moi, j'en ai avec eux autres, avec les gars de Jamais Content. Fait que si vous avez un petit deux secondes, si vous voulez apporter votre soutien à cette famille-là, en fait, la problématique est très simple. Les nouvelles sont plates, sont difficiles, mais il reste que c'est localisé. Il va y avoir des chirurgies qui s'en viennent, mais il va y avoir un long chemin de chimiothérapie impliqué dans ça. Et cette levée de fonds-là, ils ont des assurances et tout ça, mais la levée de fonds va servir, en fait, à tout ce qui concerne les frais de déplacement et tout ça, parce que les assureurs ne sont pas forts. Les assureurs sont pas forts sur rembourser ça intégralement. Fait que ça va servir justement à leurs frais de subsistance. Parce qu'écoute, Rouyn-Montréal, c'est pas à porte, là.
Ouais, c'est ça. Le voyagement puis l'hébergement, tu sais, quand tu as un enfant dans un hôpital qui est là pour longtemps puis ça risque d'être le cas, ben il faut que tu te loges quelque part, puis si possible, ça serait-tu le fun que ça aille quelque part qui a de l'allure puis pas un motel dégueulasse sur le boulevard Hamel.
Ben c'est ça.
On vous invite à leur venir en aide. Moi, j'ai aussi une petite annonce à faire. Ben, je vais te laisser faire ta bonne nouvelle, puis après ça, je vais faire une petite.
Bon, ben écoute, la bonne nouvelle, écoute, vois pas qu'est-ce que je pourrais dire comme bonne nouvelle qui va effacer.
Il y a rien qui va effacer ça, mais quand
mais,
même.
Ben écoute, il y a un nouveau traitement. En fait, tu sais, l'azothérapie. L'azothérapie, moi, c'est quelque chose dans le. Je pense que tout le monde le sait à cette heure que je suis un animal lover fini, puis que j'aurais moins de misère. J'aurais plus de misère à faire du mal à un animal qu'à certains humains. Mais bon, ça. Mais là, écoute. L'azothérapie, tu sais, vous avez vu ça avec plein d'animaux, là. Mais là, il y a une compagnie qui s'appelle U-Talk, qui a été fondée par Emma Redman et Piper Ashton, qui utilisent, tiens-toi bien, des moutons pour faire de la thérapie. Les moutons sont reconnus pour avoir un tempérament qui est similaire au chien. Ça fait en sorte qu'ils sont en mesure de donner un support émotionnel aux gens qui ont des en problématique de santé mentale. Fait que c'est pas compliqué, c'est des beaux moutons, tout bien laineux et tout ça, puis qui sont élevés dans le but de faire ça, évidemment. Puis c'est parce que là, un mouton...
On peut pas
là,
des fois que des animaux de ferme peuvent avoir les mêmes qualités que des animaux de compagnie.
Là. Ouais, non, c'est ça. Et dans le cas qui nous occupe présentement, là, ça fait pas super longtemps qu'ils opèrent, mais ça va tellement bien. Écoute, ils ont déjà commencé, tu sais, évidemment, là, ils ont un support scientifique là, là-dedans, là, c'est pas juste, hey, viens jaser avec mes moutons, là, c'est pas juste ça. Puis il y a de différentes conditions dont on a pu faire la démonstration que ça avait des effets bénéfiques psychologiques, ça va de soi, mais même physiologiques. Fait que, écoute, puis moi, je salue ça. Je suis 100% d'accord avec ça. J'ai vu de très proche de moi des gens qui vivaient des situations difficiles. Regarde, je te donne un exemple. C'est pas rien qu'une affaire de « je file pas, je suis dépressif ». Non, c'est pas juste ça. Mettons que tu es en train de traverser une grande épreuve dans ta vie. Avoir une présence animale, ça a des effets bénéfiques. C'est clair, c'est scientifiquement démontré. Mais là, ce que je trouve cool, puis qui m'a fait un peu sourire en coin, c'était qu'on utilise les moutons. Alors, voilà. Je ne sais pas s'ils vont le faire avec les moutruches éventuellement, mais... fait que c'est pas mal sympathique. Et c'est quoi, en fait, le site? C'est une ferme où il y a... c'est un élevage en même temps. Là, un mouton, tu n'as pas le choix de tondre ça un moment donné. Là, je veux dire, sinon, lui, il n'y a plus de fun. Là. Mais au-delà de ça, ben, ça permet justement d'apporter un peu de réconfort aux gens qui en ont besoin. Et moi, ben ça me fait toujours chaud au cœur.
Ça voilà. Me fait penser à une blague familiale. T'sais, maintenant, j'apprends des blagues familiales qui se racontent devant des enfants. Fait que j'en ai une. Comment t'appelles ça, un mouton pas de pattes? Un nuage! C'est bien populaire. Je veux faire une petite plug aussi après ce flop.
Ouais.
J'avais pas le choix de la faire parce que la personne à qui elle s'adresse va se reconnaître. Je mets le lien de leur page Facebook. Il y a un band qui sont mes amis, en fait, des gens de Noranda. D'ailleurs, si vous allez voir sur leur Facebook qui apparaît en ce moment dans le chat... Vous allez voir qu'ils posent devant la fameuse fonderie qui empoisonne la ville. Ils font un show ce soir à la source de la Martinière à Québec. Ils sont avec Fumigène et Jet Sam. C'est du gros métal. Ils sont bons, ils sont solides. Si vous voulez vous faire défoncer la face, vous faire fondre la face, vous allez là.
Ils sont ailleurs oui. Après. Là, j'imagine que tu t'en vas là, mais c'est,
oui,
c'est
je m'en vais là.
World Tour.
Oui, oui, c'est la tournée mondiale du Québec. Ils sont d'ailleurs, ils ont réussi à se dépêtrer de problèmes mécaniques qui sont arrivés au jour 1, le jour 1 de leur tournée. Mais ça s'est arrangé, fait que leur véhicule va être capable de transporter les musiciens, les instruments, puis une tonne de métal qui vont vous sacrer ça dans la face. Donc, comme je disais, ce soir, à la source de la Martinière à Québec, arrivez là autour de 20h. En fait, arrivez avant pour en boire une coupe avant. C'est avec Jet Sam puis Fumigène. Jeudi, à Rimouski, ceux qui sont à Rimouski, je sais qu'on en a, à l'Underground, allez voir ça. Trois-Rivières, vendredi, à la Taverne Royale. Et samedi, attention, Ottawa, à l'Avant-Garde. Les gens de l'Outaouais traversent la rivière, ça, c'est une maudite bonne raison. Puis allez voir ça. Guntway, allez voir la page Facebook, j'ai mis le lien dans les commentaires. Fait qu'allez visiter ça. Il y a des extraits. Je suis pas mal sûr qu'il y a des extraits. Moi, j'en ai entendu parce que j'ai un petit contact privilégié. C'est pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous connaissez très bien Super Dave, le gars qui est capable de composer une toune à lui tout seul en dedans de 2 heures, de se filmer puis de mettre ça quelque part. On se rappelle qu'il l'a déjà fait. Imaginez-le avec deux autres musiciens tout aussi talentueux, ça varge, ça cogne, c'est très bon. Fait que, allez voir ça, les amateurs de métal. Vous ne serez pas déçus et c'est ce qui va mettre un point final à cet express quotidien. Et on se reparle demain à midi pour le dernier de la semaine avec les tweets de tweets que vous attendez. Je sais qu'il y en a plein. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.